BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité du jour et de nouveaux chiffres sur la réouverture du détroit d'Ormuz. Une plateforme de suivi maritime indique ce midi que 25 navires commerciaux ont passé le détroit hier. C'est le trafic le plus élevé relevé depuis le 18 avril. Pour autant, le protocole d'accord signé entre les États-Unis et l'Iran semble de plus en plus fragile alors que les frappes israéliennes continuent au Liban. Les premières discussions de mise en œuvre de l'accord prévues initialement aujourd'hui en Suisse ont été reportées sinédié, en cause notamment l'annulation de la venue du vice-président américain, justifiée à ce stade par des problématiques de logistique. D'ici là, une petite alerte quand même du côté de la Banque Centrale Européenne. Un des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE indique aujourd'hui qu'il pourrait y avoir un nouveau relèvement de taux dès le mois prochain, si de nouveaux signes indiquaient que l'inflation puisse aller au-delà du secteur énergétique. Dans ce contexte, les dettes d'État repartent à la hausse ce midi. Sur le 10 ans français, on est de nouveau au-dessus des 3,7%. Et le 10 ans allemand, lui, est plus très loin de repasser la barre des 3%. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les vendredis, ce ne sont pas les meilleurs professionnels de ce secteur, mais bien les meilleurs journalistes en l'occurrence. À mes côtés, Pierre Chevillard et Guillaume Erard. Au programme, vous en avez l'habitude, on démarrera par le fameux topoto de la semaine. Bon, on va pas se mentir, est-ce qu'on doit redouter une nouvelle hausse de taux dans le contexte qu'on voit, la Banque Centrale Européenne, tout ça. Ou au contraire, est-ce que ça pourrait se calmer avec cet accord de paix ou ce protocole d'accord, aussi fragile soit-il? On va essayer de prendre nos boules de cristal aujourd'hui. Petite dédicace à Guillaume Erard, également au programme de ses experts de l'IMO du vendredi, les derniers chiffres du marché. On parlera de l'ancien, on parlera du neuf, on parlera des chouchous de pierre, les maisons évidemment. On parlera évidemment de la chaleur extrême du moment. Et oui, c'est la canicule. Est-ce que nos logements peuvent être adaptés à ces fortes chaleurs et au réchauffement climatique? Si on n'est pas encore propriétaire ou locataire de ces logements, est-ce qu'on peut choisir les meilleures adresses, les adresses les plus fraîches, se méfier des adresses où il fait le plus chaud? On posera toutes ces questions, on essaiera d'apporter quelques conseils face aux fortes chaleurs qui nous attendent. On parlera d'une arnaque, tiens. Une arnaque autour d'un investissement au Portugal. Et des investisseurs lésés qui s'attaquent, en l'occurrence, à leur banque. On verra si c'est possible et s'ils pourraient avoir gain de cause. A priori, je vous cache pas, je fais un petit spoil, a priori non, mais bon, bref. Et puis on terminera par de la fraîcheur. Mais oui, ça fait des semaines que Pierre nous promet un bilan de l'immobilier à la montagne de l'hiver dernier.
L'été arrive et la montagne fait frais.
Si vous avez problème de chaleur, allez monter à la montagne, ça sera très bien aussi. Allez, on y va tout de suite.
Les experts de l'IMO, le débat.
Monter à la montagne, ouais, je suis un peu fatiguée. C'est la chaleur. Guillaume Erard, journaliste immobilier au Figaro, est avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour Marie.
Et le journaliste indépendant dont on dépend tellement, Pierre Chevillard. Bonjour Pierre.
Bonjour Marie.
Et évidemment, on envoie le jingle.
Les experts de l'IMO, le topoto de la semaine.
Et aussi dingue soit-il, notre topoto de la semaine, on est quand même sur ce mois de juin, alors on arrive à mi-parcours du mois de juin quand même, même un peu plus, on est plutôt stable au niveau de nos taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'on a vu le taux moyen progresser de 0,05, 0,10, 0,20 parfois, mais là, a priori, on se stabilise. Messieurs, allez, est-ce que c'est le début de la fin de la hausse des taux?
Oula. Ça, alors, le principe des prévisions.
Ils vont sortir du plateau dans le coup de barre, c'est pas possible. On peut pas commencer comme ça.
Déjà, les courtiers, les experts ont du mal. Alors, nous, on peut éventuellement.
Prévoir l'avenir, c'est la meilleure façon de se tromper. Et les taux ont, à nombreuses reprises, déjoué les pronostics. Ce qu'on peut voir, c'est que la tendance est haussière. Aujourd'hui, on a un taux moyen, à toute durée confondue, qui est autour de 3,25, taux brut. Et que BPCE table sur 3,43 à la fin d'année.
J'ai trouvé hyper optimiste, BPCE dans leur
observatoire. 55, si je me souviens bien. Ouais. Donc, mais aujourd'hui, en fait, la tendance, elle est clairement haussière pour tout un tas de raisons, le coût de refinancement des banques, l'OAT dont on parlait, mais en même temps, la production a un peu marqué le pas et que les banques compense la hausse des taux par une politique commerciale agressive.
Choix, en fait.
Et on peut, parce que bon, on sait tous, hein, pour elle, c'est la seule façon de gagner des clients. Donc, elle prête à marge zéro, voire à marge négative, pour ensuite bâtir ce qu'on appelle une relation commerciale de long terme.
Et vous vendre leur assurance de prêt qui,
et
elle,
voilà,
est bien margée.
Et voilà, et voilà. Et que, par exemple, aujourd'hui, le 20 ans moyen est aux alentours de 3,50. Mais pour les très, très bons dossiers, au revenu, de l'apport, des contreparties, c'est-à-dire de l'épargne placée chez la banque.
Guillaume, quoi, en gros.
On peut être à 3,20, 3,10.
Encore.
C'est les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. J'ai regardé les baromètres des courtiers. On est à 3%.
Donc, voilà. C'est-à-dire que la fenêtre de tir. On décroche encore du 3% en taux facial, hein.
Oui, oui. Et ça veut dire que la fenêtre de tir, elle est encore ouverte. Elle est encore ouverte.
Oui, puis on a des banques là qui nous ont sorti. Vous parliez du 3,10, là, c'est la Société Générale, là.
Exactement.
En plus,
Alors, je crois pas que c'était sur du long terme. Je crois que c'était un ou deux mois, donc c'est plus court. Généralement, c'est 6 mois. Là, j'ai l'impression que c'était plus court. Mais pour ajouter aux perspectives dont parlait Pierre tout à l'heure, il y a également le courtier CAFPI qui a donné une conférence de presse hier, et eux qui tapent plutôt sur du 3,70.
Ouais. Donc, ce qui me paraît, alors je veux pas faire la provocation,
mais logique avec le rythme actuel. Voilà.
Je crois que c'est sur le 25 ans qui tapait sur du.
C'est vrai, exact. C'était sur le 25 ans. Bon, mais. Je discutais avec le président du Crédit Mutuel Arkéa, plutôt rare d'entendre les banquiers. On dit souvent, il n'y a que les courtiers qui parlent. Bah oui, bah, j'ai envie de dire, à vous banquiers de prendre
la
parole.
Charge à vous, de vous exprimer. On est
Et qui me disait, en fait, moi je suis pas inquiet là sur, j'étais pas inquiet sur le premier semestre, c'était plutôt sur le second. Parce qu'il y a quand même, on parle de la BCE, on parle de l'OAT, mais il y a quand même un rendez-vous qui est super important à l'automne, c'est le budget. Et si rebelote par rapport à l'année dernière, on a un gouvernement qui peine à redresser les finances publiques, un budget qui a du mal à se faire à être voté, là, pour le coup, les investisseurs vont commencer à durcir le ton et les banques, du coup, vont devoir enquiller avec des hausses de taux de crédit. Donc, il me disait, moi, je suis plus inquiet pour la fin de l'année plus que je ne l'étais pour ce premier semestre. Donc, ce qui pourrait corroborer cette perspective de 3,70.
Mais CAFPI nous disait aussi hier que sur les offres commerciales des banques, les prêts à taux bonifiés, c'est qu'il y aura très vraisemblablement, d'après eux, de nouvelles propositions à la rentrée sur des cibles de clientèle, et ça dépendra des banques. Les banques auront atteint leurs objectifs.
C'est ça.
Donc, c'est les primo-accédants, les logements bien isolés, etc.
Et les plus favorisés sont effectivement les primo-accédants. J'ai toujours CAFPI à décortiquer un prêt composé d'un prêt libre, d'un prêt à taux zéro, d'un prêt action logement, de deux types de prêts à taux bonifiés. Sur le 25 ans moyen, on est à 3,60, aux alentours de 3,60. Et là, on descendait à, je ne sais plus, 1,19, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça.
1,19, c'est-à-dire que
si vous
cumulez tout ça, l'inflation, elle est à 2,5.
Non, mais c'est
ça veut dire qu'en taux réel, on est en taux négatif.
Dire vraiment, Pierre, j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup moins. Quand on parle à nos amis courtiers, à chaque fois, ils me disent, il y a une forme aussi d'auto-censure des emprunteurs qui disent, oh là là, 3,5%, mais c'est pas possible, c'est pas touchable. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, quand vous cumulez toutes ces aides, le taux moyen, il est nettement en dessous des 3%. Je crois que la plupart, à moins de 2,5%, parce qu'il y a vraiment, en fonction des aides dont vous pouvez bénéficier, évidemment.
Alors, on rappelle, ok, c'est plusieurs lignes de crédit, du coup, mais on rappelle que, contrairement au prêt principal, les prêts à taux bonifiés, c'est une partie du montant emprunté, donc ça va être 10 000, 20 000, 30 000 euros, et ça peut être parfois à des taux nuls.
Ouais,
donc,
bien sûr.
Donc, ok, plusieurs lignes de crédit, mais quand même.
Ce que disait courtier, notamment CAFPI, mais aussi d'autres comme Prêteau ou Emprunti, si vous montrez à la banque que vous êtes rentable, notamment en donnant des contreparties, par exemple pour les investisseurs, alors il y a plus de 110%, c'est-à-dire le prêt qui couvre la dette immobilière plus les frais, mais il est encore possible de trouver du 100% si vous arrivez avec votre épargne résiduelle chez le banquier. C'est-à-dire que, pour avoir un bon taux pour décrocher un bon crédit, il faut sécuriser le banquier avec un dossier nickel. Des finances bienvenues, et puis bien tenues. Et puis, il faut aussi lui montrer que vous êtes rentable pour la banque. Et si vous êtes rentable, eh bien, la banque, elle peut vous faire de bonnes propositions, mais pas toutes, pas au même moment.
Ouais,
donc, il faut faire jouer la concurrence, il faut regarder plusieurs offres. Et là, effectivement, comme je disais, la fenêtre de tir, elle reste encore ouverte. Et peut-être que pour certains, en cherchant bien, elle le sera encore cet automne.
Et on dit souvent, quand vous dites ça, journaliste, vous faites le jeu des courtiers. Mais c'est quand même un peu la réalité. C'est de dire, on dit souvent, n'attendez pas. Là, pardon, la perspective, sauf, rebondissement improbable, les taux vont pas baisser. Alors, ok, très bien, on va me dire, si t'empruntes là à 3,5, je pourrais pas renégocier. Mais bon, 3,5, ça se trouve, dans 6 mois, on aura du 4. Donc, là, on le voit, la perspective, ok, c'est sur 25 ans, mais 3,7, mine de rien, on se rapproche petit à petit du plus haut récent qu'on avait eu. On avait tapé, je crois, le 4,20 ou 4,30.
Ouais, décembre 2023.
Voilà. Mémoire. Donc, quand on a, en gros, le conseil, il est banal, mais finalement, il est pas. C'est de dire, si vous avez un projet de vie qui est bien ficelé et votre banque vous le suit, pourquoi attendre ?
Mais bien sûr, et d'autant qu'on le rappelle, un taux, malgré tout, ça peut pas se renégocier. Si, enfin, pas de.
Ça peut, mais bon.
Mais voilà, un taux, ça se renégocie. Un prix non, et on rappelle. Voilà. Et à chaque fois, c'est la petite musique. Mais quand même, quand vous avez emprunté à 1%, vous étiez ravi. Et là, je les vois tous. Ah, ouais, moi, j'ai eu 1%. Ouais, mais t'as acheté à combien ? Parce que c'est ça le sujet. Un prix, ça ne renégocie pas. Et donc, la plupart de ceux qui ont acheté au moment des taux à 1%, s'ils ont besoin de vendre, bah, ils vont perdre de l'argent. Hein, donc.
Et puis, petite parenthèse prix. D'ailleurs, c'est, on se faisait la réflexion. Les volumes. Pèse énormément. Là, la Fédération nationale de l'immobilier anticipe peut-être en dessous des 900 000 pour cette année. Donc, normalement, les prix devraient fortement baisser. C'est pas du tout ce qu'on constate. Globalement, ça reste assez stable.
Mais en même temps, il nous permet de faire la pirouette. Du coup, hop, on descend, on quitte notre topoto pour aller vers le point marché.
Parce que la mécanique sur l'ancien, c'est que quand vous avez un ralentissement du marché dû aux incertitudes et la hausse des taux, le premier mécanisme, c'est la baisse des volumes. Ouais. Et c'est dans un deuxième temps.
Toutes les crises,
baisse des prix. Mais la baisse des prix, elle est souvent beaucoup moins forte que la baisse des volumes.
Et que
sur le long terme, vous prenez les SAT, hein, c'est la fameuse crise de 91. Entre 91 et 96, l'immobilier à Paris perd 30%. Donc, si vous avez acheté en 91, vous vendez en 96, c'est la cata. Mais si vous revendez en 2002, c'est-à-dire 11-12 ans après, les chiffres des donateurs de Paris sur le site montrent que vous revendez, vous n'avez pas perdu d'argent.
Ouais, bien sûr.
Et que si vous envisagez l'acquisition, alors après, ça dépend des marchés, des types de biens, tout ça, mais sur 15 ans, tout le monde, quand vous voyez, par exemple, il y a une carte, je vais faire un petit peu de publicité, mais quand vous voyez les cartes de meilleurs agents avec l'évolution des prix sur un mois, trois mois, un an, cinq ans, dix ans, eh ben, sur plus de dix ans, souvent, on est toujours sur des hausses de prix. Placement long terme. Mmh. Après, c'est toujours mieux.
Ah bah après, ça rejoint ce qu'on dit assez régulièrement à l'antenne, qui est de dire, les gars, si vous investissez en immobilier, c'est pas pour vendre au bout de 5 ans. La plupart du temps, il faut y passer une petite décennie au moins.
Bah, on rappelle, la durée de détention, c'est à peu près 8-9 ans, quand même.
Ouais, je pense que ça va aller en grand. Mais on parlait des prix. Ouais. Alors, Guillaume, oui, effectivement, on n'a pas, pour l'instant, de correction massive des prix, alors que les taux repartent un tout petit peu à la hausse. Mais enfin, quand même.
Il y a des exemples, en effet.
Ouais, il y a quand même des endroits où on sent que la correction, elle va peut-être être plus rapide à se faire cette fois-ci qu'au moment de la crise inflationniste de la guerre en Ukraine. On va faire ce petit point marché quand même, Pierre. On en est où des chiffres qui ont été justement récemment publiés du côté de l'ancien et du neuf, par exemple ?
Sur la FNAIM, ce que disait Guillaume, donc l'année dernière, on était aux alentours de 950 000 transactions. La FNAIM dit 900-920 en 2026. BPCE dit 890 000.
Ouais, c'est ça.
Et c'est le 5 juin dernier, il y a Crédit Agricole SA qui a sorti une étude de marché. Eux, ils tapent sur la stabilité aux alentours des 950 000 transactions.
Ouais, ils sont optimistes.
Bon, c'est optimiste, mais bon. Après, c'est quand on regarde, par exemple, le dernier baromètre se loger qui est paru il y a une dizaine de jours, eux, ils nous disent qu'il y a des marchés dynamiques comme Paris, Lyon, Marseille, avec des prix qui montent un petit peu et des délais de vente qui se raccourcissent. Il y a des marchés en ajustement avec des prix en baisse, mais des délais plus courts. Là, ça montre que le marché commence à prendre la mesure des prix d'immobilier que les vendeurs rencontrent les acquéreurs. Mais vous avez encore des marchés sous tension comme Rennes, Toulouse ou Strasbourg, où les prix augmente toujours, mais vous avez des délais de transaction qui montent. Par exemple, à Rennes, on est à 107 jours, alors qu'à la moyenne, je crois que c'est au jour de 70-75 jours.
Ouais, mais donc ça, quelque part, c'est quand même une indication qu'à un moment donné, ça craque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les délais s'allongent trop fortement, les prix finissent par corriger. Pour le coup, même à Paris, il y a quand même des secteurs où on sent que ça ralentit. Hein.
Alors, on est en très légère hausse à Paris, d'après les chiffres des notaires.
Oui, mais la hausse n'est pas aussi forte que ce qu'on avait prévu. Hein.
Et puis, après, c'est toujours pareil. Ça va dépendre de la qualité. Si vous achetez un bien avec un mauvais DPE, la tactique, c'est que vous avez un prix. Le DPE dit qu'il faut 100 000 euros de travaux. Ben on va négocier 100 000 euros de réduction sur le prix. Et que le vendeur, lui, il a beaucoup de mal. Après, ça dépend aussi. Si vous êtes dans un magnifique immeuble du 16e arrondissement avec un très, très bel appartement haussmannien classé G sur le DPE qui est refait, mais que pour l'isoler, c'est extrêmement compliqué. Là, la marge de négociation ne sera pas la même parce que c'est un bien rare. Il y en a très peu. Donc voilà, c'est un peu tout ce paysage.
Si il est G, quand même, je pense qu'aujourd'hui, un G, c'est.
Ouais, mais si vous avez
Il y a l'adresse aussi.
Ouais, mais alors, même l'adresse, je ne suis pas certaine. À la rigueur, un EVG. Ouais. Mais le vrai G, je suis pas sûre que quand bien même on a vu sur la Tour Eiffel, si il n'y ait pas une décote par rapport à un bien similaire, mieux noté.
À l'automne dernier, il y a un bien qui a été vendu au bout de la rue de Rivoli, dans ces magnifiques immeubles en pierre de taille, avec des arcades, des combles en dodane, et qui donnait à la fois sur le jardin des Tuileries et sur la place de la Concorde. Donc, un bien unique, des biens comme ça, il y en a pratiquement pas à Paris. 50 000 euros du mètre carré. Ouais. Et l'acquéreur, bon, vraisemblablement, le DPE, voilà, c'est, si je veux ça, si j'ai l'argent pour le faire, une perle rare, on y met le prix. Il y a un coup de cœur, un bien exceptionnel. Après, c'est exceptionnel.
Voilà, c'est ça.
Et puis Alban fait un petit commentaire d'Alban, notre réalisateur, qui me dit oui, puis il a les moyens pour payer les dépenses énergétiques de toute façon à partir du moment où il est prêt à mettre 50 000 euros.
Et puis ça se trouve, c'est peut-être un pied-à-terre, donc lui, ça lui pose pas de problème une période.
Super, le pied-à-terre, ça fait du logement vacant 8 mois sur 12, c'est formidable.
Petite dédicace à notre ami Jacques Baudrier.
Voilà. Mais bien sûr. Un mot sur le 9.
Alors sur le 9, c'est la société d'études d'adéquation qui a sorti sa météo INMO il y a quelques jours et qui nous dit que c'est une cata absolue, ça n'arrête pas de descendre. Sur les 5 premiers mois de l'année, il y a eu 18 500 réservations au détail, c'est 20% de moins. Quand les promoteurs sont confrontés à une très très faible demande, il y a eu 18 000 mises en vente, si je me souviens bien, c'est une baisse de 31%. Donc c'est un marché, en fait, l'année dernière, si on prend les chiffres du gouvernement, était à 65 000 ventes, peut-être qu'on sera... Mais PCE dit qu'on sera à 66 000 parce qu'il y a un petit rebond de l'investissement locatif. Mais
Le Jean Brun,
il y aura 10 000 logements grand maximum, pas les 50 000 prévus par le gouvernement.
Après, vous lui laissez le temps à ce
point. Oui,
sauf que ça se trouve dans un an, voilà.
Oh, mais pourquoi
anticiper aussi. C'est ça, c'est ce qu'on se disait, c'est-à-dire que ça montre la détermination du gouvernement.
La peur n'évite pas le danger. À un moment donné, il faut se lancer.
Mais oui.
Mais bien sûr, après, on sait qu'un investissement immobilier, on le disait, c'est du long terme, c'est coûteux. Donc, il y a le contexte qui joue, mais c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qu'il faut...
Mais sur le neuf, oui, les promoteurs, c'est...
Mais les perspectives sont meilleures quand même, non, Pierre? Là, justement, sur l'aspect géopolitique, peut-être une accalmie, on l'espère, en tout cas.
Mais de toute façon, le principe, il est simple, c'est qu'il y a des besoins en logement, notamment sur des T2, des T3, il y a davantage de familles monoparentales, davantage de décohabitation, plus le neuf, il y a quand même... Les choses qu'il faut dire, c'est que non seulement c'est la cible principale des prêts à taux bonifiés et du PTZ.
Ouais, ils sont bien financés.
Et puis, il fait un peu chaud dehors, c'est quand même ces logements-là qui sont les mieux adaptés à la canicule. Il y a une qualité technique dans le neuf qui n'est pas celle de l'ancien.
Ah, ils ont bossé les transitions.
C'est impressionnant, c'est bien. Hein. Je crois que c'est la meilleure journée.
Tous les deux, vous travaillez les transitions, formidablement. Écoute, du coup, puisqu'on parle de la chaleur, parce que ça n'a échappé à personne. On y va. On a plein de sujets à dire. Alors, avant de se pencher sur les adresses, juste un mot. Quand j'habite déjà dans le logement et que on va pas se mentir, on galère tous un tout petit peu à conserver de la fraîcheur chez nous, où qu'on soit. Est-ce qu'on a de quoi finalement protéger nos logements aujourd'hui de la chaleur, Guillaume?
C'est exactement la question qu'on se posait. Parce que je discutais avec des industriels de la rénovation énergétique et ils avaient cette phrase, et je pense que c'est un peu la réalité, c'est que le gouvernement a mis le paquet sur MaPrimeRénov pour les passoires thermiques, donc ces fameux logements, on parlait tout à l'heure de DPE, diagnostic de performance énergétique F ou G, l'air qui passe à travers les murs et on grelotte un max l'hiver. En revanche, ils me disaient, pour l'été, ce qu'on appelle dans le jargon technique le confort d'été, en gros, les bouilloires thermiques, là, c'est le strict minimum. Et pourtant, on le voit. Moi, j'ai l'impression que sur ce sujet, on est un peu des perroquets, quoi. Chaque année, on répète la même chose. Mais ce qui a changé, c'est que ces périodes de canicule, elles sont de plus en plus longues.
Elles se multiplient, elles sont de plus en plus longues.
Elles sont de plus en plus intenses. Et surtout, elles commencent de plus en plus tôt. Donc, de dire, on va mettre le paquet sur l'hiver plutôt que sur l'été, non, à un moment donné, la donne a changé. Et donc, aujourd'hui, on le voit. Je lisais une étude de l'Agence de l'environnement qui dit, on parle beaucoup d'isolation, mais en fait, les meilleurs gestes, en tout cas selon l'ADEME, c'est ce qu'on appelle les protections solaires.
Les volets,
l'ombre. Les stores.
L'ombre.
Une stat que moi, je n'avais pas forcément. Il me disait, à Paris, vous avez près de 70% des logements qui sont dotés insuffisamment de volets.
Mais
c'est
pour ça qu'à l'époque, Yann Brossa avait dit qu'il voulait lancer un grand plan volet pour Paris.
Vous avez sur X, il y a un excellent climatologue urbaniste qui s'appelle Clément Gaillard et qui nous dit que un des problèmes, c'est qu'on n'a pas la culture de la chaleur. Si vous êtes à Perpignan, où il peut faire très chaud l'été, ouais, vous avez, alors l'urbanisme est fait, vous avez dans la vieille ville des rues très étroites avec des immeubles assez hauts parce qu'il faut de l'ombre. Le matin, quand vous vous levez, quand il fait encore pas trop trop chaud, on aère et très vite, on ferme tout. Quitte à vivre dans le noir parce qu'il ne faut pas que la chaleur rentre et que pour ça, la meilleure protection, c'est l'ombre. On parlait du neuf. Le neuf, aujourd'hui, vous avez une conception de bloc climatique. Vous avez des volets, c'est programmé, qui se baissent automatiquement à 8h du matin. Donc voilà, c'est, et vous avez un réel bénéfice.
Sauf que tout ça, c'est bien pour répondre immédiatement à l'enjeu de la canicule, parce que la canicule, elle va plus vite que la politique du gouvernement aujourd'hui. Ouais. Et en fait...
Et tout va plus vite que la politique du gouvernement.
Et donc, évidemment, faut répondre de manière immédiate. Et forcément, c'est quoi? C'est la clim, c'est les gestes qu'on a l'habitude d'entendre chaque année. Sauf qu'aujourd'hui, comme pour l'hiver, il faut passer la vitesse supérieure. Il faut une vraie politique. Aujourd'hui, est-ce que notre immobilier a été pensé pour faire face à la canicule et, comme on disait tout à l'heure, à ces canicules répétées?
Ouais,
non. Donc c'est vraiment, encore une fois, une politique. Alors pour le coup, là, les promoteurs nous disent régulièrement, nous on n'a pas attendu ça pour repenser notre
façon de construire. Façon de construire.
Le gouvernement va faire des propositions. Hein. Il y a deux jours, Vincent Jeanbras a expliqué qu'il avait facilité le vote en copropriété pour les protections solaires, créer des aides supplémentaires pour les, ce qu'on appelle les pompes à chaleur RR. Ouais. C'est la clim.
Ouais. Alors ce qui est génial, c'est que pour les pompes à chaleur, vous en parlez, je trouve ça génial. Hein. Les pompes à chaleur, on en a parlé cette semaine. Mais les pompes à chaleur RO aujourd'hui sont sursubventionnées. Oui. Les pompes à chaleur RR sont sous-subventionnées.
Alors, RO, c'est soit de la rénovation très lourde qui aboutit à une reconstruction à neuf, surtout dans le collectif. Sinon, c'est pour le neuf. Mais l'avantage de la pompe à chaleur RO, c'est qu'elle a une fonction rafraîchissante.
RR.
Mais déjà en RO, si vous la mettez à 25 degrés, s'il fait 35 degrés dehors.
Oui, non, mais d'accord, mais là, en l'occurrence, tous les acteurs de la réno nous disent qu'ils ont eu une espèce de boost de commande de pompe à chaleur RR, qui permet effectivement d'avoir du frais, donc de faire climatisation.
Sauf que MaPrimeRénov', donc c'est uniquement ce qu'on appelle les C2E, certificat d'économie d'énergie, donc en gros, c'est les aides privées. Mais il y en a un autre dont on parle beaucoup là ces derniers jours, heures, c'est ce qu'on appelle les brasseurs d'air.
Mais les ventilateurs de plafond.
Et alors, pour le coup, eux, ils sont éligibles à MaPrimeRénov', mais uniquement dans le cadre de rénovation globale. Et donc, vous avez...
Mais c'est un enfer administratif.
Et donc, vous avez là, depuis hier, plein de messages, notamment de la Fondation pour le logement des défavorisés, qui dit, mais c'est pas subventionné. Bon, après, en moyenne, ça coûte à peu près 180 euros.
Ça peut c'est être horrible, moins. Messieurs, parce que je trouve ça passionnant, mais il nous reste...
Il est déjà 22.
Ah non, mais il nous reste 4 minutes 50.
Donc là,
c'est tout ce qu'on a abordé.
Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde les simulations, si on est sur un scénario de réchauffement à 2 degrés, ça veut dire que dans les périodes de canicule dans des villes comme Paris, on aura des journées à 40-42 degrés pendant la période de chaleur. Les nuits seront entre 25 et 28 degrés.
Bonheur.
Si vous avez un logement qui est bien isolé avec de l'inertie, du défaçage, il y a des termes techniques qui disent que le logement est isolé de la chaleur. Le problème, c'est qu'au bout, si la vague de chaleur dure 10-12 jours, la chaleur, elle finit par rentrer. La surventilation nocturne ne marche pas.
Ah.
Moi, je trouve, c'est un point de vue personnel, mais je trouve que pourquoi est-ce qu'on se prive de la climatisation qui a une très mauvaise image de marque alors qu'elle marche avec une électricité décarbonée?
Économie d'énergie.
Ça consomme pas tant que ça en énergie et surtout, ça nous apporte du confort dans les bureaux. Ici, on est climatisé, ça pose de problème à personne. Et il faut pas climatiser
même
les logements.
D'ailleurs, je trouve ça trop froid, si vous voulez mon avis. Bon, bref.
On coupe les deux.
La climatisation, ça peut.
Ouais, après, il y a d'autres solutions un peu naturelles. On va pas avoir le temps d'en parler, mais on en parlait hors antenne. La géothermie, on revient aux sources. C'est-à-dire qu'il y a des solutions.
La géothermie, c'est de la clim, c'est du thermodynamique, ça marche de la même façon.
Alors, c'est cher, faut creuser, me dit Alban.
Mais Alban a raison.
Juste d'un mot quand même, Pierre, parce qu'on n'aura pas le temps sinon, et ça va me rendre très, très triste. Quand même, donnez-nous les adresses. Alors, j'adore, parce que quand Pierre m'envoie ces sujets, il me met les adresses les plus chères sont les plus chaudes.
Alors, moi, je me suis livré à un petit jeu. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais si vous prenez, j'ai encore cité Meilleurs Agents, la carte des prix de Meilleurs Agents en Île-de-France, et vous prenez l'Institut Paris Région a énormément de données. Ils ont fait une cartographie des îlots de chaleur urbain. Parce que vous voyez, c'est que les zones denses sont les plus chaudes, mais sont aussi les plus chères. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans le 7e, où c'est très dense de les payer 14-15 000 euros du mètre carré, avec un îlot de chaleur urbain, vous aurez 6 à 8 degrés de plus que si vous êtes en grande banlieue et que si vous êtes dans les Yvelines du côté de Rambouillet.
Donc, c'est là qu'il faut acheter rapidement, Pierre, si je veux chercher une adresse, l'adresse la plus fraîche autour
Alors,
de moi.
Il faut, a priori, être au bord de l'eau, au bord d'un parc, dans un endroit où il y a du vent, et plus vous allez vous éloigner des zones denses, plus vous serez au frais. Le problème, c'est que derrière, il faut se déplacer, et que si vous avez des transports en commun qui ne sont pas climatisés,
on embrasse
aux
la
heures
ligne
de pointe,
8.
C'est l'enfer. C'est l'enfer.
Ouais.
Non, non, mais oui, la végétalisation, Alban me disait dans l'oreillette, effectivement, il faut regarder aussi les villes fleuries, c'est-à-dire des villes où on a quand même pensé à végétaliser aussi. C'est pas mal pour rafraîchir les secteurs, les quartiers. Bon, il nous reste deux sujets et deux minutes. Je ne sais même pas si on va s'en sortir.
Une minute par sujet.
Rapidement quand même, l'arnaque des investisseurs, donc français pour le coup,
c'est ça,
qui ont été approchés pour aller au Portugal.
Par un arnaqueur pour investir dans des parkings au Portugal. Et qui du coup, en fait, bah c'était une arnaque. Et alors, ils se sont retournés, non pas contre l'arnaqueur, mais contre la banque.
Ah oui, bah ils n'ont pas chopé l'arnaqueur, donc il fallait bien trouver quelqu'un. Hein.
Pour ce qu'on appelle, c'était surtout ça que je voulais insister, défaut de vigilance. On a souvent l'habitude d'entendre parler, de voir de conseils, de voir d'informations.
Ouais.
Sauf que là, ils ne pouvaient pas informer ou conseiller ou quoi que ce soit. La banque n'était pas au courant.
On est forcément obligé de demander conseil parce que la banque a bien vu quand même qu'il y avait un virement qui a été fait.
Alors, en gros, c'est ce que m'expliquait un avocat en droit bancaire. La banque peut intervenir à partir du moment où cette somme représente une part disproportionnée par rapport au patrimoine et considère que c'est un virement, un montant anormal par rapport au patrimoine de la personne. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Par ailleurs, la justice, tribunal première instance et la cour d'appel a considéré que la banque n'était pas averti, que ce soit par un mail, par un profil ou quoi que ce soit. Et donc, le devoir de vigilance ne peut pas
être pris en compte. Et donc, de fait, la banque n'a pas pu être jugée responsable. Exactement. Juste d'un mot, s'ils avaient demandé le conseil à la banque, pour le coup, la décision a été différente.
Ah, bien sûr, voilà, c'est ça. C'est à partir du moment où ils sont en contact avec la banque et qu'ils demandent des éléments, là.
On avait une idée du rendement de ce que tu as proposé.
Ah, bah là, c'est moins 12. Hein.
je crois que c'était à peu près de cet ordre-là. J'ai plus le chiffre exact, mais pour le coup, c'était des montants délirants.
Ouais, parce que ce qu'on retrouve toujours dans ces cas-là, c'est qu'on vous promet un rendement très élevé. Or, le principe, c'est le rendement rémunéré, c'est quand le rendement est trop élevé, il y a souvent un loup.
Là, c'était plus que risqué.
Malheureusement, c'est ça. C'est en fait les chiffres mirifiques qui te font penser à un investissement.
Et donc, au pire du pire, si vous avez un doute, vous demandez conseil à la banque. Quand bien même elle vous conseille mal, au final, vous pouvez vous retourner sur la banque.
Exactement. Mais au moins, qu'elle soit au courant.
Bon, d'un mot, on va où à la montagne? Vous avez 10 secondes.
La montagne, ça marche très bien. Les prix montent. Ça peut atteindre des valeurs dans les stations leaders. On est entre 12 et 15 000 euros du mètre carré. Courchevel, Chamonix, Méribel. Le luxe peut monter à plus de 50 000 euros du mètre carré. C'est un marché qui est en expansion. Il y a plein de chiffres. La FNAIM, il y a eu Savills, il y a eu Knight Frank aussi.
Ouais.
Qui montrent que voilà, ça marche bien parce que vous avez une très bonne saison de ski.
Ouais.
Il continue à y avoir de la neige même si le climat change. Donc le ski, ça marche toujours. L'été, c'est plus frais.
Et puis on est au calme.
Mais c'est comme partout. C'est-à-dire que c'est attractif. Si vous avez de l'attractivité, vous avez des prix chers. Et voilà, c'est comme
c'est ça. C'est cher, mais est-ce que justement, à un moment donné, on bouclera notre émission là-dessus, à un moment donné, finalement, compte tenu du réchauffement climatique, c'est pas ces endroits-là qu'on va aller privilégier pour s'éloigner de là où il fait trop, trop chaud et de la ligne 8, j'insiste.
Il y a des agents immobiliers qui me disaient qu'en Normandie, commence à voir arriver des seniors qui revendent leur logement sur la Côte d'Azur pour s'installer.
Mais bien sûr, on est au-dessus de l'Atlantique, on est dans la Manche, mais on parlait d'Atlantique Riviera, on va remonter, mer du Nord.
Nous, on a même des Corses qui viennent en Normandie chez nous.
Bon, allez, on y va. Ah bah ouais, tiens, c'est bon ça. On arrête. Alban va se fâcher. Guillaume Mérard, journaliste immobilier au Figaro, et Pierre Chevillard, journaliste indépendant qui était avec nous pour ses experts de l'IMO du vendredi. J'espère qu'on a pu vous rafraîchir un tout petit peu. Je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode sur BFM Business.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.